Philosophie première par le père Philippe à Saint-Jotard, le 8 janvier 90.
Nous allons continuer dans cette année 90 à réfléchir sur le problème métaphysique de la personne. Que pour nous, ce problème métaphysique de la personne est un peu central. Et c'est par là que nous pouvons rejoindre tout l'effort philosophique moderne. Il y a une grande montée de la recherche de la personne. Depuis le début de la philosophie occidentale, le problème de la personne tel qu'il se pose aujourd'hui, et puis tel que nous essaierons de le voir au plan philosophique. C'est pour ça que je n'hésite pas de faire une topique assez longue. Parce que je crois que c'est peut-être pour nous le moyen, topic historique, le moyen de rejoindre la pensée moderne. Vous voyez, quand il s'agit du problème de la substance est très vite perdue dans des sables mouvants. Regardez la substance dans la philosophie contemporaine. On vous regarde avec des gros yeux. Ah, vous êtes aristotélicien. C'est tout. Donc on vous a classé un tiroir. Pour beaucoup, Aristote, c'est un tiroir. Il a existé. Quand vous faites la philosophie de l'acte, ils ne comprennent rien. Sauf certains. Jaspers a pigé ça. Heidegger a compris que c'était le sommet de la philosophie grecque. C'est déjà quelque chose. Grand coup de chapeau. Et pour Heidegger, c'est quelque chose d'actuel. Mais c'est très mal compris depuis Leibniz. L'energeia s'est compris comme l'efficacité. C'est beaucoup plus l'entelekeia qui demeure, c'est-à-dire le vivant dans sa conquête de sa finalité. Le problème de l'un et du multiple est très actuel, mais dans une perspective de néoplatonisme, dans une perspective critique, ou dans une perspective logique. Mais c'est vrai qu'il est très actuel. Le problème de l'un et du multiple est peut-être l'aspect très fondamental de toute la philosophie, l'œcuménisme philosophique. Et il faut bien voir tous ces problèmes-là et comprendre un peu ce que ça signifie, substance, avec tout problème de la qualité des prédicaments. L'acte et la puissance. L'un et le multiple. Et comprendre ce que ça veut dire, ça, pour nous. Le problème de l'un et le multiple, c'est le problème de la propriété. Et donc, c'est toujours beaucoup plus descriptif. Et c'est ce que les modernes ont gardé dans le néoplatonisme. Le problème de la personne représente le problème du pose, c'est-à-dire du comment l'être se présente-t-il à nous. Et le Dasein de Heidegger, comment l'être se présente-t-il à nous. Et l'être se présente à nous dans son état de perfection, dans la personne. personne représente l'aspect le plus parfait de l'existant. Ou l'aspect existentiel de l'être. Si on veut jouer sur existentiel, existentiel. Distinction heideggerienne. Intéressante. Pour ne pas la négliger. Donc la personne représente pour nous l'expérience la plus forte que j'ai de l'être existentiel, existentiel. C'est très curieux. Mais nous y reviendrons là-dessus. C'est donc un peu le sommet. Alors, attention, le sommet d'une pensée métaphysique dans son caractère immédiat. Ce n'est pas le sommet de pénétration. Le sommet de la pénétration, c'est l'être en acte, l'énergéia. Ça, c'est le sommet de la pénétration. C'est pour ça que c'est toujours très difficile. Première année, seconde année, troisième année, on sent qu'il y a là un problème très foncier et ultime et très difficile. C'est vraiment là où l'intelligence pénètre le plus loin. Vous voyez ? Alors, ce sera intéressant, personne et acte. C'est pas pour rien, ce livre, personne et acte. Parce qu'on touche là deux aspects. Qu'est-ce qui est plus ultime, l'acte ou la personne? Le tiesti et le pos, en termes grecs, en termes aristotéliciens. Le tiesti, l'interrogation, qu'est-ce? La recherche du principe. Et l'acte, c'est la découverte de la fin, telos, la fin de l'être. La découverte de la cause finale au niveau métaphysique. Et la personne, c'est la découverte de la réalité existante qui se donne à moi. Parmi toutes les réalités que vous expérimentez, il y en a une qui est un absolu. Une seule. Vous voyez, ce que Kant n'a jamais saisi. Le chemin d'existence, là devient je suis. C'est très étonnant. Il y a dans l'expérience du je suis quelque chose d'absolu. Vous touchez métaphysiquement un absolu. Par la personne humaine. Alors voyez, cette rencontre de ce qu'il y a d'ultime au point de vue de l'intelligence du principe et ce qu'il y a d'absolu dans l'expérience du je suis. Notre connaissance intellectuelle est toujours entre les deux aspects. L'expérience, j'ai besoin d'expérience. Un intellectuel a besoin d'expérience. L'homme a besoin d'expérience. Et en même temps, l'homme a besoin de dépasser l'expérience pour atteindre quelque chose d'ultime. Les deux pieds sur terre et le regard sur l'étoile. C'est ça, la sagesse. Les deux pieds sur terre. L'expérience. Et puis alors, ce regard intellectuel, pénétrant, qui dépasse l'expérience et qui touche la
S.
Interrogation. Le diesti, dans ce qu'il a d'ultime, lettre marque. Et puis le pose, le comment. Voyez, Auguste Comte, qui oppose le pourquoi au comment, et qui opte pour le comment. On tombe dans le positivisme. trouver ce tiesti dans la fin, de retrouver le pose dans le point de vue de la personne. Alors, pour bien découvrir ce pose, on va faire cette petite topic historique que nous avions commencé de faire. Il est toujours rejeté. passé, c'est le lot du contemplatif. Il faut comprendre ça. Et Platon, à ce point de vue-là, est merveilleux. Alors, c'est pas juste, ce n'est que partiel. Mais c'est une partie mise en pleine lumière. Et si je regarde Platon de cette manière-là, il y a des quantités de choses extrêmement fortes et intéressantes. L'exaltation de l'expérience intérieure comme étant la grande expérience et la seule absolue, parce qu'elle se termine dans la contemplation. Et elle me permet d'accepter la mort. La mort est une libération. Il ne faut pas l'oublier, hein, que notre philosophie occidentale commence par ça. Et là, elle est liée avec l'Orient. De plus en plus, on voit que Platon est lié à l'Orient. Comment s'est faite cette influence? Ça, on en discute. Et on en discutera indéfiniment. Parce que Platon n'est pas un historien. Et donc ne dit pas comment certaines choses sont venues. Alors on dira, il y a un Platon d'initiation intérieure. Et c'est vrai, il y a un peu ça. Je crois que Platon, si on est un spirituel, on le comprend. Et il faut tout simplement avoir l'expérience d'une vie intérieure extrêmement poussée. Pour comprendre Platon et comprendre le primat de cette vie intérieure et donc comprendre le primat de l'expérience intérieure. Alors, chez Platon, le problème de la personne est comme volatilisé dans le problème de l'âme. Et c'est très très intéressant parce que c'est juste l'opposé de tout ce que nous voyons. Actuellement. C'est pour ça que Platon est si intéressant. Les deux extrêmes pour nous, philosophes de la fin du XXe siècle. Il y a Platon, d'une part, et puis toute la philosophie contemporaine. La philosophie contemporaine exalte la personne en supprimant l'âme. Platon exalte l'âme en parlant pas de la personne. Donc la personne est réduite à l'âme et à l'âme contemplative. C'est l'âme contemplative, Platon. C'est l'âme séparée. Et le corps n'est pas assimilé comme faisant partie de la personne. Donc c'est un pos de la subsistance de l'âme par elle-même. C'est le comment de l'âme qui subsiste en elle-même et qui subsiste par elle-même dans sa contemplation. Dans sa contemplation, elle n'a pas besoin du corps. Le corps est gênant. C'est très gênant d'avoir un corps quand on contemple. Parce que par le corps, on a une montre. Alors que le contemplatif ne veut pas en avoir. Il devrait rester tout le temps dans son extase. Donc, c'est très important, Platon, dans notre monde d'aujourd'hui. Je crois qu'on doit tous comprendre Platon, mais fermement. C'est très difficile à interpréter. C'est très difficile. Parce que justement, Platon ne saisit pas de principe. Alors, vous pouvez interpréter Platon de diverses façons. C'est pour ça que tu restes que l'ordre qu'on donne des dialogues de Platon n'est pas toujours le même. Y a-t-il une évolution dans Platon? Il y a une pénétration toujours plus grande de l'âme spirituelle. Et il y a un grand tournant dans la philosophie de Platon. Le Parménide. L'autocritique de ce qu'on ne devrait pas critiquer.
à un niveau bien plus élevé. De sorte que les critiques modernes, c'est très, très, très mort comparativement à Platon. Pour comprendre Platon, il faut avoir une âme spirituelle contemplative. Alors moi, je crois que le jeune Aristote, c'est très significatif. Symboliquement, c'est la présence de celui qui ne veut pas abandonner l'expérience. Mais pas l'expérience interne. En premier lieu, l'expérience externe. C'est celui qui maintient l'importance des sensations. Vous voyez, c'est quand même très curieux de voir que c'est dans Parménide que vous trouvez la première expression de l'induction. Pour ceux qui cherchent à savoir ce que c'est que l'induction, regardez dans le Parménide de Platon. C'est là où vous trouvez la première ébauche. Et c'est Platon qui découvre la première ébauche de l'induction. Alors que c'est en contradiction avec ce que dit le Ménon. Le Ménon, c'est la réminiscence. Vous avez tout d'avance. Quand vous commencez la philosophie, vous avez tout d'avance. Si vous restez au Ménon, vous connaissez parfaitement toute la géographie, toute la géométrie, vous connaissez parfaitement toute la philosophie, mais vous l'avez perdue à cause de votre corps. C'est cette alliance avec le corps qui vous a fait perdre tout ça. Alors dépassez tout ça et revenez à votre premier état initial d'être une âme séparée. Vous voyez, un noviciat chez Platon ferait que l'effort principal de toute la journée, c'est de redécouvrir cet état d'âme séparée. Je ne sais pas ce que ça aboutirait au bout de 2 ans. Les planeurs. On entendrait un ronron de planeurs. Alors c'est très curieux, la présence d'Aristote auprès de Platon. Ce colosse au pied d'argile. Il ne faut pas oublier que pour Platon, la grande synthèse de Platon, c'est la République. Et après la République, et dans cette grande synthèse de Platon, le roi, c'est le philosophe. Et il a le droit de mentir. Il y a une apologétique du mensonge chez Platon. C'est la grande faiblesse de Platon. Parce qu'une morale qui implique le mensonge, c'est l'aspect politique qui relativise le moral. J'ai le droit de mentir à l'égard des imbéciles. Ils ne comprennent pas. Comment vous le comprenez? Alors, mentons pour les aider, puis c'est tout. Alors, ne mentons pas de comprendre. Une espèce de mépris vis-à-vis de la masse. C'est ça qui est insupportable chez Platon. Mais c'est grand, mais c'est insupportable. Alors il faut saisir ces deux aspects constants, et c'est ça qui nous empêche d'être platonicien. Autrement, je serais platonicien. Je ne peux pas l'être à cause de ça. Parce qu'au fond, on n'a pas découvert le respect de l'homme dans son individualité et donc dans sa personnalité. On ramène tout à l'âme séparée. Et Aristote est là, le jeune Aristote, est là pour montrer que tout, cette philosophie de la République, le dialogue sur la justice a des pieds d'argile. Ça ne tient pas. Et ça ne peut pas tenir. D'où, il faut redécouvrir, à partir d'une certaine expérience, les idées en soi. Et non plus les fonder sur la réminiscence, mais les fonder sur autre chose, sur l'expérience. D'où l'induction. philosophie aristotélicienne implique elle aussi la critique. La critique est née avec Platon. Ça, avec le Parménide. C'est la naissance de cette attitude réflexive de la philosophie. Alors, on voit Platon, on voit Socrate se mettant à l'école de Parménide pour échapper Aristote, on retourne à Parménide. C'est très étonnant, ça. Et tout l'aspect de la dialectique. De là, ça va tenir un certain temps. Et on verra par là, progressivement, réintroduire la sensation dans la connaissance. Mais pas complètement. Jamais complètement. Platon n'aboutira jamais au jugement d'existence. Ah, vous vous demandez pourquoi, ça, ce sera qui sera intéressant. Il n'aboutira jamais au jugement d'existence. Il restera toujours dans le primat de la forme, de l'intelligibilité. C'est l'intelligibilité qui est première dans l'ordre de l'être. L'être est identique à l'intelligible. Et donc, ce n'est pas ce qui est. Prime, c'est ce qui est connu. Donc c'est le connu, le vécu dans l'ordre intellectuel qui prime. Et ça, depuis le début jusqu'à la fin. Avec un équilibre différent dans la fin, où il veut respecter davantage le point de vue de la sensation, mais il ne l'intégrera jamais totalement. Avec Aristote, Aristote ayant vieilli à l'ombre de Platon, de 18 ans à 38 ans, 20 ans à l'école de Platon. C'est rude, il y a de quoi forger un homme. Faut pas oublier, hein. 20 ans à l'ombre de Hegel. Ouais, ce que ça fait. 20 ans à l'ombre de Heidegger. Les deux formes de platonisme de notre monde moderne. Et alors, arrivé, la mort de Platon a libéré Aristote. Ça, c'est bien platonicien. Platon ne savait pas si bien dire que la mort libérait le nous. Le nous aristotélicien, il est libéré par là. Après avoir vécu pendant 20 ans sur la tutelle d'un maître qu'il aimait. Platon et la vérité, je les aime tous les deux. Ça, c'est la grande parole d'Aristote. Oui, si pour Hegel, on dit « je suis luthérien », pour Aristote, c'est cette parole parallèle. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Là, on comprend tout Aristote. Tout Aristote se comprend là. C'est la vérité qu'il recherche avant tout. Alors, ce qui est intéressant de voir que chez Aristote, on va redécouvrir l'importance de l'expérience, c'est-à-dire de l'alliance fondamentale qui existe en l'homme entre l'intelligence et les sensations. D'où le jugement d'existence qui apparaît. Alors, c'est pas dit très explicitement chez Aristote, c'est quand même dit. Puisqu'Aristote dit textuellement que l'interrogation du eis esti, est-ce que cela existe, est antérieure à l'interrogation du ti esti, qu'est-ce. Et tout l'aristotélisme, au point de vue critique, repose là-dessus. Le primat du eis esti par rapport au ti esti. Donc, est-ce que cela est, existe? Donc, voyez le primat du jugement d'existence. Le ansit latin. cite, latin. Vous avez donc à mettre ici le SSTI. Le ANSIT. Voilà, premier, deux, trois. Comme ça, c'est parfait. Il y a une trilogie. Il faut bien comprendre que toujours ceci est premier. Est-ce que cela existe? Donc, tout repose pour Aristote là-dessus. À la place de mettre des pieds d'argile, il met le jugement d'existence. Oui, Cécile Rock. Et tout l'édifice de la philosophie d'Aristote reposera sur le jugement d'existence. Si cette réalité n'existe pas, elle ne m'intéresse pas philosophiquement. N'intéresse le philosophe que ceux qui existent. C'est pour ça que la montagne d'or ne m'intéresse pas philosophiquement. Ça m'intéresse rhétoriquement, mais pas philosophiquement. Seuls ceux qui existent intéressent le philosophe. Oui, là, c'est le réalisme extrêmement brutal d'Aristote, qui pendant 20 ans a dû mordre son frein. Alors, il s'est fait des dents. Pour arriver à découvrir ça. C'est pour ça que le premier Aristote, il fait des dialogues à la manière de Platon. Ils sont perdus. C'est très dommage. Mais on n'a aucun texte du premier Aristote qui accepte les formes en soi. Donc Aristote n'a jamais accepté les formes idéales. Parce que le Aristote, on ne les a jamais rencontrées, les formes idéales. Vous avez rencontré le cheval en soi. Vous avez le cheval noir, vous avez le cheval rouge feu, vous avez le cheval verdâtre, mais vous n'avez pas le cheval en soi. Le cheval en soi, non, 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 non. Je l'ai jamais vu, et vous non plus. Et vous ne le verrez jamais. Et l'homme en soi non plus. Dans la philosophie aristotélicienne, le mot personne n'existe pas non plus. Mais la réalité de la personne est présente. Elle est présente à des niveaux différents. Il y a l'homme qui domine l'univers, c'est-à-dire qui le transforme. L'homme artiste qui transforme l'univers. L'homme concret qui découvre son autonomie en dominant l'univers. Il y a l'homme ami. Finaliser un autre homme dans l'amitié, la philia. Il y a l'homme contemplatif. C'est l'homme contemplatif, c'est pas l'âme spirituelle contemplative. C'est pas l'âme immortelle contemplative, c'est l'homme qui contemple. Vous avez donc trois niveaux où vous découvrez l'homme dans une certaine perfection. L'homme individuel. Vous avez l'homme politique. Et vous posez la question, est-ce que l'homme politique implique lui aussi une certaine finalité? Mais pour Aristote, il semble bien que l'homme politique